poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Qui regarde au fond de Paris à le vertige, écrivait Victor Hugo. Aujourd'hui, dérive, fantôme et épiphanie avec Pacôme Thielman, ou comment faire circuler ensemble mystique révolutionnaire, poésie visionnaire et géographie parisienne. Pacôme Thielman, bonjour, bienvenue. Bonjour. Avant bonjour, de rentrer dans le studio, vous chantonniez déjà.
Oui, Céline et Julie vont en bateau, c'est une musique qui me quitte pas, qui malheureusement n'existe pas à ce jour en CD. Ça serait bien qu'un jour la bande originale du film soit exhumée.
Oui, parce que là c'est un tout petit extrait de la bande annonce hein, de Céline et Julie vont en bateau, film de 1974 réalisé par Jacques Rivette. Pour entrer donc dans le Paris des profondeurs que vous signez aux éditions du Seuil, Pacôme Thielman, Paris est partout chez Rivette, on pourrait même ajouter et vice-versa, et Rivette est partout
dans Paris.
Dans votre déambulation
dans mon livre.
Parisienne, oui. Absolument. Quel guide est-ce qu'il a été pour vous dans ce projet, avant que de parler des poètes, à proprement parler ?
Énorme, je crois que... en fait, un des plus grands chocs dans ma vie, le cinéma de Rivette, j'en suis obsédé depuis un assez jeune âge, enfin l'adolescence, quoi. Et c'est venu avec Céline et Julie vont en bateau parce que c'était le film préféré de ma mère. Elle m'en avait parlé, elle l'avait pas revu depuis sa jeunesse. Il est passé un jour sur une chaîne du câble. Et à ce moment-là, je pense que ça passait très tard, parce que c'est un film très long, je l'avais enregistré, je l'ai revu derrière, et puis après je l'ai revu un millier de fois. Et ensuite j'ai vu tous les films de Rivette, et je les ai tous vus, peut-être pas tous un millier de fois, mais pas loin. Et dans les films de Rivette, il y a beaucoup Paris. Mais Paris est donné de façon extrêmement énigmatique. C'est-à-dire que les lieux clés sont rendus quasi méconnaissables, parce qu'un élément important y manque. Et par exemple, dans Céline et Julie vont en bateau, j'ai mis 20 ans ou 25 ans à me rendre compte que la scène démarrage du film, c'était le square Suzanne Buisson, qui est un square qui est très important parce que c'est celui où Saint-Denis, le patron de Paris, avait fait boire à la fontaine sa tête fraîchement coupée avant d'aller se balader avec sa tête sous le bras jusqu'à la ville de Saint-Denis. Et ça, c'est vraiment le baptême de Paris. Et le fait que Céline et Julie vont en bateau commence au lieu de la tête coupée de Saint-Denis, à mon avis, n'est pas un hasard, mais simplement comme il enlève la statue qu'il le montre, il nous montre le parc de cette façon qu'on s'en rend pas compte du tout. Pareil, on retrouve dans un autre de ces films, Histoire de Marie et Julien, une place qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de ce ministre de Gaulle, là, c'est comique, Michel Debré, place Michel Debré, quoi, qui a été longtemps la place de la Croix-Rouge. Et c'est là où Julien attend Marie au début d'Histoire de Marie et Julien et où elle vient pas. Mais là, normalement, on la reconnaît quand il y a la statue du centaure de César. Mais comme il enlève la statue du centaure de César, on peut passer beaucoup de temps sans se rendre compte d'où on est.
Et il vous arrive même, en tout cas c'est ce que vous racontez dans le livre, hein, de vous prendre pour Céline et Julie.
Ah oui.
Céline ou Julie, sachant que les deux jouent à être l'une et l'autre.
Exactement.
Alors c'est par là que vous ouvrez votre essai en forme de dérive, par là et par le numéro 11 de la rue Pierre-Nicole et le garage du 14 bis de la même rue, hein, au 11, un immeuble moderne, c'est dans le 5e, hein, au 11, un immeuble moderne et des fausses ruines et une grande fresque, et puis au 14 bis, sous le garage, donc, la première chapelle de Paris, là où Saint-Denis convertit les premiers chrétiens. Qu'est-ce qui faisait de ce 11 de la rue Pierre-Nicole l'entrée idéale au livre ?
Parce que c'est probablement le premier lieu qui m'est apparu dans la ville comme une énigme. Alors c'est une énigme relativement moderne parce que c'est un immeuble qui date des années 70. Moi j'y allais quand j'allais au collège qui était au bout de la rue pour passer mon bac et je passais devant, et en fait devant on a ces espèces de fausses ruines qui débordent sur la rue, une fontaine cassée, une colonne dorique, une espèce d'état de la pierre qui a plusieurs époques différentes en dessous d'un immeuble moderne, et une fresque fresques avec des touristes dans un espèce de palais qui est comme construit sur des ruines. Et c'était très très énigmatique pour moi. Et en fait, cet endroit, je l'ai beaucoup interrogé. C'est une époque que les jeunes n'ont pas connue, où on n'avait pas Wikipédia, Internet à disposition, et donc on pouvait pas tout de suite savoir où on était et ce que c'était que ce truc. Et donc moi, c'était une espèce de mystère. Puis après, je suis pas allé dans ce quartier pendant très longtemps. J'y retourne il y a quelques années. Je revois cet endroit. Il me produit un choc, mais monstrueux. Je me souviens, en fait, d'un coup, c'est une sorte de, comme la fameuse bouffée proustienne, quoi. C'est un bloc intégral de souvenirs, d'interrogations. Et je me dis, mais oui, mais d'accord. Il y a quelque chose qui démarre ici. C'est cette fresque. C'est la fresque de la destruction de Paris et de l'après-Paris. C'est une espèce de peinture apocalyptique. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Je commence à essayer d'enquêter sur ce lieu et j'apprends que juste en face, il y a inaccessible absolument la première chapelle de Paris où Saint-Denis, à l'époque romaine, où il va venir convertir les premiers Parisiens, faisait ses premiers baptêmes parce qu'on était à la porte de Paris. Donc je commence une enquête, quoi. J'essaye de savoir qui a construit cet immeuble. J'arrive à avoir au téléphone l'architecte. Je rencontre l'auteur de la fresque et des ruines. Et donc voilà. Bon, là, à ce moment-là, un livre commence forcément.
Alors commencez par Saint-Denis sous terre. Comme vous dites, c'est donc commencé par un baptême. C'est placé d'emblée Paris et votre enquête, votre dérive, votre essai, je ne sais pas comment on peut appeler ce drôle d'objet qu'est ce livre, le placer en tout cas sous le signe du sacré, ce qui n'étonne guère venant de vous, qui goûtait assez méthodiquement la position de l'exégète. Et donc pratiquer et écrire Paris en exégète, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça pose d'emblée comme vision de Paris ou comme façon de comprendre ou de prendre Paris?
Alors ça, c'est comment dire, c'est-à-dire que l'exégèse, enfin moi je m'ai fait que des exégèses dans ma vie. Après, j'ai fait des exégèses autobiographiques, par exemple j'ai pris un morceau de ma vie et je l'ai étudié comme un texte sacré. Je fais des exégèses de séries télévisées. J'avais commencé avec des exégèses de pop musique, en fait je prenais les disques des Beatles et je les étudiais comme un texte sacré. C'est prendre une ville et l'étudier comme un texte sacré. Alors c'est assez bizarre, c'est-à-dire c'est poser une intentionnalité à la ville. Ça n'a rien d'évident en tant que tel. Enfin, quand on est exégète, on suppose que l'œuvre elle-même dépasse les intentions de ses différents auteurs. Que l'œuvre est un tout qui dépasse les parties qui l'ont. Donc, un disque des Beatles, c'est pas un disque de John Lennon, de Paul McCartney, de Ringo Starr, de George Harrison, des producteurs, des machins, etc. Non, c'est un disque de cette entité mystérieuse et on va dire idéale qu'est les Beatles, et c'est dans la relation avec son auditeur qui se crée. Là, c'est pareil avec Paris, c'est-à-dire que c'est un rapport à Paris où soudain, j'avais besoin que Paris me parle. Un peu aussi comme autre exemple, je donne beaucoup d'exemples, bon tant pis, c'est pas grave, un autre exemple c'est le personnage de John Locke dans la série Lost. Dans Lost, série, il y a ce personnage de John Locke qui tombe, c'est sur une île mystérieuse, mais c'est une île qui a une intention, qui a une volonté. Et John Locke dedans, il essaye de savoir ce que l'île veut de lui. Et il est là, il dit j'attends que l'île me dise quoi faire. Donc il est là, il attend que l'île lui dise où aller, quoi faire, comment agir. Bon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai traversé Paris, ça n'étonnera personne, c'était juste en sortir de confinement, donc j'étais dans Paris et privé de Paris pendant plusieurs mois. Le confinement est levé et d'un coup je sors avide de retrouver cette ville que
vous arpentiez déjà beaucoup.
Déjà beaucoup avant. Mais bon, là j'ai pris ça a été comme un phénomène nouveau, quoi. Et donc du coup, j'étais là et je me posais des questions sur le sens de tel quartier, et le sens des parcours des gens qui ont vécu dans cette ville. Alors, qui dit texte sacré dit aussi évidemment des auteurs, poètes, etc. Mon Paris n'est pas tant le Paris de Saint-Denis que celui qui est mon Saint-Denis à moi, qui est Nerval. Donc ça va être aussi un pèlerinage sur les routes des poètes dans Paris. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de poètes qui ont vécu dans Paris, tout le monde le sait, mais...
De Paris qui ont vécu dans les poètes aussi.
Voilà, il y a un certain nombre de Paris qui ont vécu dans les poètes, absolument. Mais à partir de Nerval, on va dire, c'est très clair que le fait de traverser Paris est aussi une manière d'interroger Paris. Nerval va interroger spécifiquement Paris comme ville sacrée pas chrétienne, Nerval est pas chrétien, ça va être la ville d'Isis, Paris, ville d'Isis. Et il va devenir, d'une certaine façon, une figure clé de la lecture de Paris. Et le parcours de Derval dans Paris est signifiant. Exactement comme pour, si j'étais chrétien, le parcours d'un saint, bon, bah, ça serait un pèlerinage, et c'est vrai. Et puis, on reçoit des, comment dire, vous savez, on reçoit un peu de leur, de ce qu'ils ont laissé quand on traverse les lieux. Donc, refaire encore et encore et encore le parcours de Nerval, on finit par être attentif à des choses qui sont dans la marche elle-même et qui peuvent peut-être nous aider à les lire autrement.
Alors, vous parlez de Nerval, alors évidemment qui irrigue hein, vraiment presque l'ensemble du texte, mais oui. Vous retenez en particulier cet poète, cet oui. homme planète, dites-vous, hein, que vous pistez, dont vous pistez les labyrinthes propres dans Paris. Donc oui. Il y a Hugo,
oui.
On sait, Nerval, Baudelaire, L'Autréamont, Rimbaud, Mallarmé, Jarry. J'espère que j'oublie personne. Oui. Poète visionnaire, écrivez-vous, oui. Qui partagerait peut-être un rapport sacré ou sacralisé à Paris. C'est ça qui les unit ?
Alors, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi spécifiquement ces sept poètes est un tout petit peu tordue, labyrinthique. C'est parce que c'est ceux qui sont cités par André Breton dans ce fameux texte de Fronton Virage où il apprend soudain la découverte des textes gnostiques à Nag Hammadi. L'auditeur à ce moment-là, je l'ai déjà perdu, donc c'est trop tard. Je l'ai perdu bien avant Nag Hammadi, ou alors bon. Sinon, c'est qu'il a beaucoup de charité.
Vous aviez prévenu que c'était pour des raisons un peu tordues. Mais néanmoins, oui. C'est quand même la planète centrale qui vient irriguer tout le texte, ou presque, Nerval, que vous suivez dans ces déambulations. Il y a d'ailleurs un petit parallèle que vous faites entre le parcours de Nerval et puis celui de Saint-Denis.
Bien sûr, parce qu'ils sont parallèles.
Quasiment, absolument. Vous pistez aussi les dérives de Nerval, les deux crises, celle de 1841, qui est dans le 9e, vers Cadet, alors qu'il cherchait une étoile dans le ciel, et puis celle de 1852, jusqu'à son suicide, le 26 janvier 1855, si je ne dis pas de bêtises, rue de la Vieille Lanterne, absolument. À l'emplacement aujourd'hui du Théâtre de la Ville, l'emplacement, dit-on même, mais l'histoire est belle, je ne sais pas si c'est vrai, du Souffleur.
Oui, c'est quelque chose qui a été dit par plusieurs poètes. Desnos, je crois, est le premier à le dire, que c'était le trou du Souffleur. Parce que, en fait, l'endroit où Nerval s'est suicidé a été, c'est une rue qui a été détruite dans les constructions du baron Haussmann. Et donc, c'est aujourd'hui le lieu du théâtre de la ville. Et Desnos, je crois, le premier a dit qu'il avait vu il avait confronté des cartes. Mais c'est quelque chose que refera, par exemple, Stanislas Rodansky. Alors, je ne sais pas qui est le premier à l'avoir fait. Pourquoi plusieurs personnes ont essayé de trouver l'emplacement exact où Nerval s'est suicidé, ce qui est bien normal. Et ils arrivaient toujours à l'idée que c'était au trou du Souffleur. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de trou de Souffleur au théâtre de la ville.
Qu'est-ce que c'est que parcourir Paris pour Nerval, pour lui ?
Alors, moi, je crois, mais c'est-à-dire c'est une activité, déjà l'arpentage de la ville, qui démarre pas si longtemps avant Nerval, parce que les premiers, on pourrait dire, c'est Restif de la Bretonne et Sébastien Mercier qui font ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit vraiment beaucoup l'image du promeneur qui traverse la ville le jour, la nuit, etc., qui décrit ce que c'est que cette ville qu'il est en train de traverser, tout ça. Mais à partir de Nerval, ça prend une autre coloration, parce qu'il y a les différentes périodes historiques qui se confrontent. C'est-à-dire que si Nerval va à Montmartre, quand il va à Montmartre, il parle de plusieurs époques de Montmartre à la fois. Puis c'est chez Nerval où la première fois j'avais entendu l'idée que Paris était la ville d'Isis. Alors ça a été ensuite, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui apparaissait dès le Moyen-Âge. L'idée que Paris initialement voulait dire Bar-Isis, barque d'Isis, ou pareil à Paris-Isis, pareil à Isis.
Isis,
la déesse. Mais Nerval, ça va quand même au point où finalement la déesse qui lui parle, c'est Isis. Donc il est, on peut dire, le pèlerin de la déesse parisienne, où il est dans la ville en tout cas qui est la ville sacrée de la déesse Isis. Et parmi le mystère de traverser la ville avec Nerval, je me rends compte que par exemple les deux poètes que je pourrais dire qu'ils ont été les plus proches de Nerval. Pour moi, j'en fais son archidiacre et son archiprêtre, parce que Saint-Denis, donc le fameux Saint-Denis, a commencé son parcours de vie, on pourrait dire, à Paris, à la porte de Paris, donc au niveau de la station Port-Royal. Bon, il va être arrêté par le préfet Fessénius, et avec son archidiacre et son archiprêtre, il va être amené d'abord dans un premier temps à Châtelet, enfin à citer Châtelet dans la prison, et ensuite on va lui faire monter toute la route jusqu'à Montmartre, où on va lui couper la tête. Bon, Nerval...
Qui n'empêchera pas de revenir.
Ah oui, de repartir vers la ville, jusqu'à la basilique de Saint-Denis, avec sa tête sous le bras. On connaissait le truc à la Monty Python, ça fait rire tout le monde. Moi-même, je suis très, très, très bon client pour les histoires de saints à tête coupée, les céphalophores. Les céphalophores lumineux, on dit. Hein, bon, la céphalophorie lumineuse. Et donc, Nerval, lui, il naît donc sur la rue Saint-Martin, mais si on regarde, on voit que les deux poètes, sans doute les plus proches de lui, dans la pratique onirique et la pratique, comment dire, le rapport à l'onirisme, le rapport à la vision, le rapport à la médiumnie et le rapport à l'amour, et aussi d'une certaine façon le rapport à une forme d'errance ou de perte de soi, et qui sont aussi des sortes de marcheurs assez fabuleux, à savoir André Ardelet et Robert Desnos, naissent très exactement chacun d'un côté de là où Nerval est né. Et en partie dans leur parcours, surtout, c'est vraiment net chez Desnos, il va se retrouver à faire, comme Nerval, ce parcours du centre de Paris jusqu'à son sommet. Et Nerval, ça va être pour toute sa période visionnaire chez les surréalistes, où il va rentrer en transmédiumnique et où là, il va voir l'avenir. Et un avenir parfois vraiment très sombre, comme pour lui-même. Donc, il y a quelque chose d'assez étrange. Ardelet comme Desnos ont écrit les plus belles choses que je connaisse sur Nerval. Ils ont eu des vies qui peuvent, on peut dire, un peu parallèles par rapport à la sienne sur certains points. Le drame amoureux de Nerval, amoureux de cette actrice et cantatrice Jenny Colon, va se reproduire dans la vie de Desnos pour sa passion amoureuse pour une chanteuse opiomane qui ne voulait pas de lui, qui était Yvonne Georges.
Qui va donner lieu à des textes extraordinaires.
Les plus beaux poèmes de Desnos, c'est peut-être magnifique. Les plus beaux poèmes surréalistes. Et Antonin Artaud, qui était difficile et qui n'a vraiment dit du bien de ses contemporains que de Roger Gilbert Lecomte et de Colette Thomas, il en a aussi dit de Robert Desnos et de ces poèmes-là où il est...
Et puisqu'on parle d'amour, qu'est-ce qui ferait de Nadja, la Nadja de Breton, les surréalistes sont évidemment très présents dans votre essai, hein, mais qu'est-ce qui ferait de Nadja une petite sœur de Nerval?
Elle aussi, c'est à la fois le rapport à l'errance, la médiumnie et ce que je m'étais autorisé naguère à théoriser sous le nom de sycamore ou d'amour malade. En fait, Nadja, elle va avoir une passion amoureuse pour Breton, passion non partagée, mais elle va presque en mourir de cette passion. En tout cas, elle va en devenir suffisamment folle pour être internée. Mais le parcours de Nadja dans Paris est un parcours extrêmement signifiant aussi. Et la géographie traversée par Nadja, depuis le Sphinx Hôtel où elle arrive, elle revient d'une ville qui s'appelle, ça s'invente pas, Saint-André. Elle arrive par la gare du Nord, elle s'installe au premier hôtel venu. Le premier hôtel, c'est le Sphinx Hôtel. Et depuis le Sphinx Hôtel jusqu'à l'hôtel Becquerel, qui aujourd'hui a à sa porte une espèce de nid de serpent, alors que Nadja décrit son pharaon terrible, breton, entouré d'une couronne de serpents. C'est tout ça est incroyablement troublant. Et pour moi, la ville garde la trace de leur histoire, de leur poésie vécue, de leur vision et aussi de leur désespoir.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Sofiane Actib, à la réalisation June Lopère avec la collaboration de Thierry Beauchamp. Et aujourd'hui, Pacôme Thielman qui signe donc Paris des profondeurs aux éditions du Seuil. Dérive poétique, ésotérique, hein, dans un Paris qui ne cesse de vous faire signe, hein, de vous faire image, et qui ne cesse d'ailleurs de vous faire signe pour vous mener d'un lieu à un autre, un Paris peuplé de fantômes aimés, et pour vous donner du courage, parfois, vous y fredonnez ceci. Thank you.
mouth, standing there but never ever talking sense. Just a visitor, you see, so much wanting to be seen. She'd open up the doors and vaguely carry us away. It's the customary thing to say or do to a disappointed proud man in his grief. And on Fridays she'd be there, but on Mondays not at all. Just casually appearing from the clock across the hall. You're a ghost, la 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 la. You're a ghost, la 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 la. I'm the church and I've come to claim you with my iron drum. La 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 la.
Tu es un spectre, tu es un spectre. Je suis dans l'église et je suis venue te convoquer avec mon tambour de fer. Chante John Cale en 1973,
ouais.
Paris 1919. Et vous aussi, Paco Mtielman, qui chantonnait dans le livre à deux reprises.
Oui, absolument.
Alors que vous êtes pris de tristesse ou d'un sentiment de malaise, dans quelle mesure est-ce que cette chanson vous donne du courage ?
Alors, je pense que c'est le, vous voyez, c'est ces chansons. Ouais. Je pense si vous avez jamais entendu cette chanson de John Cale, elle peut vous faire penser assez rapidement à certaines chansons des Beatles. Et je pense que c'est la,
oui,
c'est la, c'est, je sais plus comment on appelle ça, c'est les gammes descendantes ou un truc comme ça. C'est le pom 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 pom. Cette espèce de truc là qui fait chaud au cœur à chaque fois. Mais bon, après, les paroles elles-mêmes sont tellement énigmatiques, mais je les adore. Hein. Alors en plus, j'essaye de les faire fonctionner comme on peut. Quoi. Je sais pas du tout de quoi elles parlent véritablement. J'ai cherché avec tous les genius du monde sur Internet. C'est très contradictoire. Bon, moi, je suppose, mais ça, c'est ma supposition, qu'il a dû la faire un peu comme faisait un peu David Bowie ou d'autres à l'époque en cut-up. Donc, ils étaient tous un peu influencés par William Burroughs, et c'est des techniques qui d'ailleurs avait été développé à Paris entre Brian Gesine et lui à l'hôtel de la rue Gillecoeur. Donc le cut-up aussi, c'est Paris.
La seconde fois que vous avez recours à la chanson de John Cale dans le livre, pardon, c'est alors que vous déambulez dans la rue Bardinet, dans le 14e arrondissement, sur les pas de Roger Gilbert Lecomte, des fondateurs de la revue Le Grand Jeu et du groupe du même nom.
Oui.
Après Jarry. Après, juste après le surréalisme, Roger Gilbert Lecomte, auteur un peu oublié, il est vrai, de La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent.
Ouais, et Miroir noir.
Une révolution manquée, dites-vous, que celle du grand jeu. Et c'est par elle que vous terminez, malgré tout, cette boucle que vous faites dans Paris, en fait. Parce que ça fonctionne un peu comme un trajet circulaire.
Mais oui.
Enfin, comme souvent chez vous d'ailleurs, mais circulaire ou en spirale parfois, mais là, circulaire en tout cas, comme une sorte de boucle.
Bah, en fait, bon, évidemment, il fallait organiser ensemble l'histoire intime, la géographie, l'histoire de Paris, l'histoire des poètes et tout ça. Donc c'est complexe, mais en fait, au bout d'un moment, ça, tout prend sens et on arrive à voir la grande image. Donc j'ai suivi un peu le livre tel que c'est. On va dire, il se dictait progressivement. Et il se trouvait que j'ai terminé le livre dans le 14e arrondissement, mais comme en fait, c'était juste ce qui s'était passé juste avant que je rentre en confinement. Et comme le livre commence à la sortie de confinement et qu'en plus il y a des souvenirs personnels qui se traversent un peu le livre, il se trouvait que c'était dans le 14e, chez une écrivain qui s'appelle Claire Barré, qui a écrit aussi sur le grand jeu, qui fait du tambour chamanique. Et en transe chamanique, j'ai vu le livre arriver d'une certaine façon 2 ou 3 ans avant. Et là, en fait, c'est aussi le quartier du grand jeu. Et ce quartier, après, je l'ai exploré en tant que tel, quoi. Il se trouvait que, et Roger Lecomte et René Daumale avaient beaucoup habité dans le 14e à différents endroits. Et la rue où Roger Gilbert Lecomte termine sa vie, morphinomane, avec sa compagne Rouf, qui meurt en camp de concentration, sans doute dans les chambres à gaz, je sais pas, on sait pas vraiment le détail, hein, à partir de ce moment-là. Et lui, qui survit très maigrement quelques moins d'un an dans un petit lieu que lui prête la patronne du café de cette rue. C'est une rue qui encore mais absolument désespérante. Enfin, on rentre dedans et on est pris par une tristesse qui est sans fin. Je sais pas comment dire. La rue Bardinet, c'est probablement une des rues les plus tristes que je connaisse. Mais en même temps, c'est aussi là où je dis que la suite pourra recommencer. Il y a 14e arrondissement de Paris est plein de promesses, plein de futurs.
Alors on n'aura évidemment pas le temps, on aurait pu parler de la rue Soufflot où naît le surréalisme au printemps 19, on aurait pu parler de l'infernal Luxembourg, on aurait pu parler, on aurait dû parler de Notre-Dame, du square René Viviani qui est votre square à vous et son puits au souhait, au quartier de Saint-Méry, de Nicolas Flamel aussi, hein, et puis de l'île Saint-Louis de Baudelaire et de la femme sans tête du quai Bourbon. Peut-être un mot à propos de Rimbaud, pour qui Baudelaire était donc le premier voyant, le roi des poètes, un vrai dieu, etc., qui a une position un petit peu à part par rapport aux autres poètes que vous citez, qui sont les poètes qui ont arpenté Paris, qui ont vécu Paris ou qui ont été habités par Paris. Rimbaud, c'est autre chose, c'est parce qu'il va y passer très peu de temps,
très peu.
Et la question qui se pose davantage pour Rimbaud, c'est au fond, qu'est-ce qu'il espérait de Paris ?
Oui, en fait, c'est tout le rapport aussi de Rimbaud et de la Commune, hein. Et tout ça, et pour moi, ça fait partie des choses les plus émouvantes sur la plaque qui est consacrée au dernier fusillé de la Commune, la dernière barricade tenue par les membres de la Commune, où est inscrit dessus ceux qui voulaient changer la vie, puisque ça c'est vraiment la formule rimbaldienne par excellence. Et en effet, les poèmes de Rimbaud sur la Commune sont nombreux, et il y a toujours cette question, est-ce qu'il a pu ou pas rejoindre la Commune ? Sans doute pas, enfin disons que ça me semble très très improbable, mais par contre, pendant la Commune, il a rédigé un projet de constitution communiste qu'avait pu voir un de ses amis et dont il a parlé, qui est évoqué, qui est un cahier que moi je suppose qu'on retrouvera un jour, et qui est vraiment une des lectures les plus extraordinaires, en tout cas du projet politique. Qu'est-ce que Rimbaud attendait de Paris ? Beaucoup de choses, évidemment. Il a été évidemment incroyablement déçu, il a fini par l'appeler par merde. Enfin bon, il a dit c'est vaguement une jolie petite ville de province. La déception, l'horreur était immense. Mais il s'est retrouvé aussi pris dans, on va dire, tout le négatif de Paris. Et le négatif de Paris, Dieu sait s'il y a à dire sur le négatif de Paris. C'est s'il y a à dire sur l'enfer aussi qu'est Paris. Et les dernières images qu'on a de Rimbaud à Paris, c'est quand il est dans ce café en face du Luxembourg. Alors oui, si on doit commencer à parler de la thématique infernale liée au Luxembourg, c'est un chapitre entier de mon bouquin là-dessus.
Mais il faut le lire.
Ouais, mais voilà, je peux pas tout résumer malheureusement, mais quoi, ça me semble incroyablement significatif que les dernières images de Rimbaud soient Rimbaud face au Luxembourg. Donc face à l'enfer.
Une toute petite dernière question. On n'a pas le temps non plus de parler de Cavana, dont vous parlez beaucoup, parce que vous parlez aussi du Paris de Harakiri. Donc là, ça nous emmène encore un peu ailleurs. Cavana qui s'est battu, apprend-on dans le livre, pour une rue Robespierre.
Oui,
très important. Je me demandais, vous, Paco Thielman, quel nom de rue est-ce qu'il vous manque à Paris ?
Oh bah, il me manque beaucoup de noms de rue. Hein. Alors, par quoi on commence ?
On fait vite, surtout.
Ah, on en veut une ?
Oui.
Oh bah, une rue Juliette Berthaud. On va commencer par une rue Juliette Berthaud.
Comme ça, on termine. On fait une boucle aussi par Céline et Julie.
Voilà.
On t'en va tout. Paris des profondeurs, apparu aux éditions du Seuil. Paco Thielman, merci. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France. Et j'ajoute que vous pouvez encore déambuler avec Paco Thielman dans le Paris des profondeurs avec François Angelier en podcastant Le Mauvais Genre, daté du 17 septembre dernier. Et j'ajoute encore que Poésie, ainsi de suite, s'écoute en partenariat avec La Croix l'Hebdo, et que comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler forme brève et haïku. Bonne fin de dimanche à toutes et à tous.